Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine, donc chargée de la formation biblique dans ce service. À mes côtés aujourd'hui, Madame Liliane Marais, qui est bibliste et qui anime un groupe cette année, un groupe d'études du quatrième évangile, l'évangile de Jean. Bonjour Liliane, merci
Bonjour,
d'être
Catherine.
Avec nous. Et Liliane vient nous parler d'un colloque auquel elle vient d'assister les 8 et 9 octobre, non, 9 et 10 octobre dernier, un colloque qui s'est tenu à Paris, au Collège des Bernardins, sur le thème de Dei Verbum, la constitution du Concile Vatican II sur la parole de Dieu. D'abord, Liliane, dites-nous qui organisait ce colloque et pourquoi ?
Eh bien, c'est essentiellement le service Évangile et Vie, le service biblique Évangile et Vie, qui imprime, enfin, qui diffuse les cahiers Évangile, et dont le directeur est le père Gérard Billon, que nous connaissons quelque peu, je crois, et qui, en fait, était l'organisateur, et à la fois l'organisateur et l'animateur de ce colloque. Alors, pourquoi ce colloque Dei Verbum ? Parce que, précisément, le 18 novembre 1965, c'est-à-dire il y a 50 ans maintenant, après pas mal de difficultés, un accouchement, il faut bien le dire, dans la douleur, était promulguée l'encyclique Dei Verbum, comment dire de façon assez succincte, qui permettait aux catholiques de rejoindre nos frères protestants dans la lecture de la Bible. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'il a été dit à plusieurs reprises et répété qu'avant Dei Verbum, on ne pouvait lire la Bible qu'avec le magistère, c'est-à-dire avec l'autorisation et mieux la présence de son curé,
Catherine. La surveillance.
Voilà. Et donc, il y avait, c'était donc au Collège des Bernardins, il y avait environ 150 personnes et venaient là essentiellement des animateurs bibliques, c'est-à-dire qui représentaient des différents diocèses de France, à savoir, moi j'ai fait un atelier par exemple, il y avait des gens de Mulhouse, de Grenoble, de Tours, de Valenciennes, donc pas mal de gens.
Uniquement des catholiques ou il y avait aussi
non,
des
non,
protestants ?
Il y avait aussi des protestants.
Est-ce qu'il y avait des orthodoxes ?
Non, pas d'orthodoxes. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des orthodoxes dans l'assistance, mais en tout cas dans les intervenants, il y avait catholiques et protestants. C'était donc un colloque œcuménique.
Un peu rétréci, donc tout l'œcuménisme
oui.
N'y était pas.
Œcuménique dans le sens où les intervenants étaient essentiellement des hommes, c'est-à-dire des prêtres intellectuels de haut vol, des grands biblistes. On avait trois évêques quand même aussi. Mais par contre, des femmes catholiques, non. Les femmes qui étaient là... C'était essentiellement des théologiennes et biblistes protestantes. Voilà.
Oui, ça, c'est.
Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Qui vous a paru particulièrement intéressant d'entendre au cours de ce colloque ?
Ben, c'est-à-dire, pour nous, les laïcs ordinaires, dont nous sommes, Catherine, enfin, moi plus que toi.
Moi aussi, non, on est tous laïcs ordinaires.
Eh bien, ça m'a confortée quand même. Dans la nécessité absolue de faire connaître la parole de Dieu. Alors, il y a une chose que je vais redire à la fin de notre entretien, là, mais il y a quelque chose qui a été dit et redit à plusieurs reprises par les différents intervenants, et surtout d'ailleurs les évêques, c'est que la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture, doit irriguer toute la pastorale. C'est drôlement important. Ça veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à part. On n'a pas dans l'Église les gens qui lisent la parole de Dieu
quelques
d'un côté.
Quelques farfelus qui se spécialisent.
Oui, il faut que ça soit partout, c'est-à-dire dans la pastorale catéchétique, sacramentelle.
Oui,
voilà.
On espère ça, évidemment. Évidemment.
Alors, pourquoi revenir sur ce texte ? C'est parce que depuis il y a eu des progrès de fait quand même, la Bible a été traduite, elle est à la portée de nous tous, nous avons des rencontres avec les protestants, même les orthodoxes, maintenant, alors il y a une chose qui n'a pas été dite là, mais je peux peut-être, en parler parce que ça me tient à cœur. Il n'a pas été tellement évoqué le problème du passeur. Moi, je pense personnellement. Hein. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée et le père Gérard Billon, qui a organisé, m'a répondu directement et m'a dit qu'effectivement, on avait un peu négligé ça. Et lire la Bible, c'est pas évident, c'est un petit peu comme l'informatique. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, on ne peut pas comme ça se permettre de prendre, pof, la Genèse et de terminer par l'Apocalypse en une seule fois. C'est important d'avoir quelqu'un qui te fait passer, c'est-à-dire qui t'explique que la Bible, c'est plusieurs livres, qu'il y a plusieurs époques, qui te fait prendre conscience du contexte dans lequel ça a été écrit, voilà. Donc ça, c'était important. Il y a des expériences aussi, il a été question des expériences qui sont faites un peu partout. Il y a des ateliers, des conférences sur la Bible. Il y a quand même eu énormément de choses de positives de faites depuis des hiver boom.
Depuis les 50 ans de...
En 65, oui.
De cet anniversaire.
Voilà. Alors, peut-être que je pourrais développer ce qui m'a paru important, hein, quand même.
Oui, qu'est-ce qui peut revenir justement de positif pour nous?
Je l'ai donc dit, le Monseigneur Pierre-Marie Carré, qui est archevêque de Montpellier, qui est vice-président de la Conférence épiscopale des évêques de France, a souligné... l'importance de l'écriture, ce que je viens de dire, la nécessité de lui faire imprégner toute la pastorale, quelle qu'elle soit. Il a insisté aussi, et je ne sais pas si ce n'est pas dans le vent en ce moment, l'importance du Premier Testament.
Oui. Qui était souvent un peu sous-estimé ou mis de côté,
oui.
Et qui en fait donne en toute son importance au Nouveau Testament.
Quelqu'un a dit, mais on pourrait supprimer la première lecture, alors ça a soulevé...
Il y a encore des gens qui pensent ça?
Oui.
Oui, alors il est nécessaire de faire des colloques.
Oui, alors ça a soulevé un tollé général, et naturellement Mgr Carré a repris ça en disant... en prenant une parole de notre Augustin qui dit « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament dévoile le Nouveau. » Donc on est bien d'accord, il faut connaître l'Écriture, mais pas seulement le Nouveau Testament, et il faut aller aussi voir du côté de l'Ancien. Parce que c'est aussi notre parole et la parole de notre Dieu. Voilà. Ah oui, il y a une dame, c'est Elisabeth Parmentier, qui est une pasteur de l'église de la confession d'Augsbourg, professeur de théologie à Genève, qui a fait cette remarque, c'est important la Bible, il faut entrer dedans, la Bible n'est pas sacrée, mais elle est sainte. Je ne sais pas si tu vois la nuance, Catherine. C'est-à-dire, le sacré, on n'y touche pas, on le respecte, on s'incline devant. Je sais ça, moi, parce que j'ai eu des...
Oui, le sacré, on n'ose pas y toucher, il reste sur une étagère, et on l'adore, oui, je comprends.
Alors que la sainteté, c'est une relation.
C'est une relation.
Et ça, ça m'a paru
tout
à fait capital. Voilà.
Mais ça, c'est effectivement plus une habitude protestante, peut-être plus ancienne, de lire la Bible, que nous devons un peu, ici, dans notre diocèse,
développer. Voilà. Je vais revenir sur l'exposé du père Christophe Théobald, donc jésuite, professeur de théologie et dogmatique au Centre Sèvres, qui... a longuement développé ça et qui a posé cette question, donc lire la Bible c'est bien, mais comment l'interpréter de façon à pouvoir la transmettre comme véritable parole de Dieu, pas se tromper, tu vois Catherine.
La parole vivante,
une
transmission de vie.
Oui, une transmission de vie. En particulier, je crois qu'il est à part lui, mais beaucoup d'autres, ont souligné le fait que ça ne doit pas être une lecture fondamentaliste. On est bien d'accord, hein, là-dessus.
Et peut-être pas non plus seulement une lecture historique lointaine. Une analyse historique peut aussi passer.
Alors,
à côté
les différentes méthodes qui ont été développées depuis donc, ce cinquantenaire des Hiverboom, moi j'ai eu l'impression un petit peu que on les laissait un peu de côté et qu'on restait quand même fidèle, tu vois, à la méthode historico-critique. En ce sens que la méthode structuraliste, ça n'enthousiasme personne. Les lectures un peu engagées, type marxiste ou féministe, ça n'a pas eu non plus.
Oui, parce que c'est la faveur des gens. Anecdotique aussi.
Donc l'important, c'est alors il a développé le père Christophe Déobal trois choses et l'écoute de la parole pour nous, pour toi, pour moi, Catherine, l'intériorisation et la transmission. Voilà. Donc ces trois et alors la transmettre, ça doit donner envie aux gens de vivre de cette parole. Voilà, c'est ça.
Pour ça, déjà, il faut l'avoir imprégné soi-même. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas digéré.
Et alors, il cite en particulier une lettre de Paul, qui lui est très, très, très chère. C'est la première aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, qui dit ceci. « Voici pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu. » Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous faisions entendre, vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu, qui est aussi à l'œuvre en vous, les croyants.
Ah oui, ça c'est essentiel.
C'était essentiel. Donc tout son exposé, qui par ailleurs était un peu savant, un peu... Bon, j'étais un petit peu... largué à certains moments, mais bon, de toute façon, les actes de ce colloque seront édités dans un cahier évangile.
Donc on pourra rediscuter de ça à l'occasion de la sortie des actes du colloque, pour voir un peu plus profondément.
Alors, il y a eu quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, le père Christophe de Breuil, ça c'était samedi matin. Père Christophe de Breuil est supérieur du séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Et alors, il a essayé de promouvoir la lecture de la Lectio Divina.
C'est la manière d'intérioriser, justement.
Et alors, moi, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on entre avec un chant. Enfin, bon, forcément, les participants étaient acquis d'avance à ce genre d'exercice. On entre avec un chant, ensuite on lit un texte, et puis alors on médite sur le texte. Alors, Catherine, 15 minutes de silence absolu dans un amphithéâtre de 150 personnes, il faut le faire quand même.
Oui, c'est impressionnant. Oui.
15 minutes. Et après, il y a un nouveau. On reprend un psaume et on reprend ensuite un autre texte et ça se termine aussi par une prière. Ça a duré trois quarts d'heure, mais on n'est pas obligé de.
Mais ces habitudes de lectio divina ne peuvent se faire qu'avec des petits morceaux de Bible, mais oui. Il serait quand même intéressant qu'on arrive à avoir une idée de la Bible dans son entier. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. J'espère que nous vous avons donné envie d'aller un peu plus loin. Je pense que nous reviendrons dans notre prochaine émission biblique, dans la démarche de la foi, pour voir la suite de ce colloque. À très bientôt, chers auditeurs.